Bonjour à toutes et tous que j'ai pas pu saluer encore. Toujours une joie de se retrouver auprès de vous. Ce matin, je continue ma lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Celles et ceux qui veulent suivre dans leur Bible, vous pouvez les ouvrir au chapitre 4. Donc 1 Corinthiens, chapitre 4. On progresse doucement, mais sûrement. Et avant de lire la parole, je vous invite à prier le Seigneur avec moi pour qu'il nous illumine de son esprit. Père éternel, nous croyons que les Écritures saintes ont été écrites par tes prophètes et tes apôtres. Et nous te demandons que le même esprit qui les a conduites nous inspire nous aussi maintenant. Amen. J'ai oublié le temps des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'école du dimanche? Il n'y a pas d'école du dimanche? D'accord. William, si tu veux aller prendre de quoi dessiner sagement, il n'y a pas de souci. Je vous lis la parole de Dieu. Considérez-nous donc comme des serviteurs du Christ, ayant la responsabilité d'annoncer le mystère de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Pour ma part, peu m'importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je n'en suis pas reconnu juste pour autant. Le Seigneur est celui qui me juge. Ne portez donc de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. Il révélera les intentions secrètes du cœur des êtres humains. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, j'ai appliqué ce qui précède à Apollos et à moi-même pour votre instruction. J'ai voulu que, par notre exemple, vous appreniez le sens de ce principe. Il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit. Aucun de vous ne doit être prétentieux en prenant le parti d'une personne contre une autre. Car, en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi faire le fier à propos de ce que tu as, comme si tu ne l'avais pas reçu? Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On continue cette lettre de 1 Corinthiens. On arrive à la fin de la toute première partie. Cette lettre parle de plein de sujets différents que Paul a dû écrire, sur lesquels Paul a dû écrire pour reprendre cette église qui était en train de partir un peu dans le décor. On peut en compter 5. L'unité de l'église, ne pas se faire la guerre entre chrétiens au sein d'une même communauté. La question des relations, de la vie sexuelle, avec qui on peut avoir des relations sexuelles ou pas. Le rapport au corps, qui est lié à ça aussi. Le rapport à la nourriture. Puis les dons spirituels qu'ils ont reçus et la résurrection d'entre les morts. Toutes ces questions assez profondes, les Corinthiens se posaient des choses dessus et puis ils se divisaient et Paul a écrit sur ces différents sujets. Étonnamment, je trouve que ce sont des problématiques très actuelles par rapport à ce que notre société traverse. Alors moi, je ne veux pas traiter tous ces thèmes, juste aujourd'hui, je m'intéresse encore à l'unité et le chapitre 4 que nous avons commencé à lire traite de cette question. Alors, après avoir fondé cette communauté à Corinthe, Paul est allé visiter d'autres églises, et puis d'autres enseignants sont venus derrière lui, notamment Apollos, et Pierre, peut-être d'autres encore qu'on ne connaît pas. Et puis, les Corinthiens se sont mis à choisir leurs favoris. « Ah ouais, moi je trouve que le meilleur, celui qui enseignait le mieux, c'est Pierre, ou non, moi c'est Apollos. » Et puis, au fur et à mesure, ils se sont attachés, ils se sont revendiqués de « je suis de l'école de », de l'école de Paul, de l'école de Pierre. Et l'Église s'est divisée en trois clans, et puis finalement, les clans se sont mis à essayer de dire qui était le meilleur, qui était le plus important. Pour Paul, c'était une absurdité. L'Église, si elle doit se ranger derrière un nom, ça ne sera certainement pas le nom d'un de ses enseignants, de ses apôtres, mais il n'y aura pas d'autre nom que celui de Jésus. Et si on lit toute la lettre, on peut comprendre, d'une part, que il n'y avait pas que la question de quel est le meilleur enseignant, il y avait plein d'autres façons à travers lesquelles ils se mettaient en compétition les uns les autres. Celui qui est le plus pieux, celui qui jeûne le plus, celui qui a le plus de dons spirituels, qui sait faire des miracles ou qui apporte le plus de convertis. Tous les prétextes étaient bons pour se comparer et dire quel était le chrétien le plus spirituel quand même. Hein ? On est tous sauvés par grâce, mais avec moi le Seigneur, il a fait une bonne affaire. Et il s'imaginait donc devenir quelqu'un à travers ça. D'autre part, d'autres considéraient que leur liberté en Christ leur permettait d'être très créatifs, voire même un peu trop laxistes, s'autorisant plein de choses. Comment est-ce que Paul va répondre à ces défis ? Comment est-ce que Paul va réfréner cette façon dont qu'ils ont de se mettre en avant, de prendre ces choses de l'Église et de les utiliser pour se mettre en compétition ? Parce que si on peut comprendre qu'on a tous le besoin d'être quelqu'un, d'être reconnu, d'être considéré, est-ce que se comparer et se mettre en compétition avec les autres est la bonne manière ? Eh bien, Paul se définit, se présente, il dit « Moi, nous, Paul, Apollos, Pierre et les autres, il faut que nous soyons considérés comme des serviteurs de Jésus, dit-il. Je suis un serviteur de Christ, un intendant des mystères de Dieu. » Vous voyez ? Dans les deux cas, il se montre comme un exécutant, comme quelqu'un qui travaille avec ce qu'il ne possède pas. Le serviteur fabrique peut-être des choses très précieuses, mais il ne les possède pas. Il transporte peut-être des choses qui ont une grande valeur, mais ça, il ne les possède pas. Si mon patron, en fin de journée, me demande de prendre le contenu de la caisse et d'aller le déposer à la banque, je vais peut-être me balader dans la rue pendant 10 minutes avec 20 000 euros sur moi, mais je ne serai pas plus riche. Ça ne m'appartient pas. Est-ce que tu as 20 000 euros sur toi ? Oui. Est-ce que tu es riche ? Non. Ce n'est pas mon bien, on me l'a confié. Et Paul pointe du doigt que sa connaissance de Jésus, sa compréhension de l'évangile, du royaume, ce qu'il appelle les mystères de Dieu, hein. C'est les mystères du salut, ça. Tout ça, il dit, ça m'a été confié, je n'en suis que l'intendant. Ça ne me rend pas supérieur aux autres, comme si c'était à moi réellement, ou moi qui l'avais inventé ou créé. On lui a confié les biens d'un autre, et il doit fidèlement les gérer, mais il ne le possède pas. S'il doit être fier de quelque chose, s'il doit être fier d'une chose, c'est que je sois trouvé fidèle. Hein ? Que mon maître, que mon employeur, que celui qui m'a confié ses biens et ses richesses, quand il arrive, il dit, ouais, donc, tu as fait fructifier, tu as bien géré, tu as pris soin de ce que je t'avais confié. Tu es un bon intendant. Imagine un maître d'hôtel qui gère un petit hôtel et qui quelque part joue tellement bien son rôle que la réputation du lieu augmente, que les étoiles augmentent et que finalement, c'est sous son intendance, ce lieu prend du cachet, prend de la valeur et acquiert une réputation. C'est grâce à son travail, mais c'est toujours pas à lui. C'est toujours à son propriétaire. Je suis fier d'être trouvé fidèle en Jésus. Donc Paul déclare que ceux qui le comparent à d'autres serviteurs de Jésus, ou ceux qui se comparent entre eux en tant que serviteurs de Jésus. Mais ces personnes font complètement fausse route. Ils continuent de fonctionner avec les valeurs du monde et ils ne sont pas pleinement rentrés dans la vision de qu'est-ce qui se passe quand Jésus règne. Lui-même il dit, ben, moi quand je regarde, je ne me considère pas avoir échoué en tant qu'apôtre. Ça ne veut pas dire qu'il se pense parfait. Hein. Ça veut dire que quand on l'accuse de ne pas être un super apôtre ou de ne pas être un très bon apôtre, il regarde son cœur, il se regarde face à Jésus, il dit, je ne me sens pas en faute. Il précise tout de suite, ça ne veut pas dire que je suis parfait, hein, et autant j'ai fait des boulettes dont je n'ai pas conscience. Ça ne me garantit pas d'être juste. Mais celui qui peut me révéler mon péché vraiment, c'est Jésus. En tout cas, ce n'est pas en me comparant avec d'autres serviteurs de Dieu que vous allez me faire croire que je suis un mauvais apôtre. Ce n'est pas en jouant à qui prêche le mieux, qui enseigne le mieux, qui... Ce n'est pas une façon de sonder la fidélité des personnes à Jésus. Christ, lorsqu'il reviendra, il va juger le fond du cœur. C'est ce que dit Paul. Alors, vous me direz, du coup, on se laisse tous tranquilles les uns les autres, on ne se dit plus rien parce qu'on n'a pas le droit de juger. Hein. Alors, oui et non. Certainement. Il y a une expression qui s'appelle faire des procès d'intention. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Faire des procès d'intention. Quelqu'un fait un acte et toi tu présumes que tu sais dans son cœur pourquoi il a agi comme il a agi. Prétendre comprendre tout ce qui se passe dans le cœur des autres. Oui, oui, tu as dit ceci devant tout le monde, mais en vrai, tu penses cela. Oui, oui, tu as agi comme ça. Mais c'était pour faire croire ceci. Paul dit qu'il convient de rester dans les limites de ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si quelque part nous sommes appelés à reprendre quelqu'un d'autre, que ce soit sur la base de ses faits et de ce qui est écrit et enseigné. Si quelqu'un vient à l'église et que je juge, moi, qu'il est mal habillé, et que je le reprenne en disant que, non mais, ta façon de t'habiller, tu déshonores le Christ. Et en fait, si tu viens à l'église comme ça, c'est que dans ton cœur, quelque part, tu le méprises. Que disent les Écritures ? Elles disent qu'il ne faut pas que l'église soit un club de mode, où l'on se met en avant par ses vêtements, que l'on ne doit pas se juger les uns les autres selon notre apparence. Il est écrit en Jacques 2, « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et puis un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant les regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Ah, toi, viens t'asseoir ici à la place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Non mais toi, reste debout là, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction ? Ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises ? Ou alors, Pierre qui dit « Ayez non cette parure extérieure, des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. » Ou alors, Colossiens 3, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Les Écritures enseignent que l'on doit bien plutôt habiller son cœur que son corps avec soin. Il est certain que si un dimanche matin, je m'assois à côté de quelqu'un qui ne se lave jamais, qui ne fait jamais de lessive, ça va être très pénible. Mais dire qu'il me méprise, qu'il se fiche des autres à cause de cela, c'est déjà commencer à rentrer dans les pensées de son cœur. Peut-être que vous avez été élevé avec cette façon de voir les choses. Respecter les autres, être propre, avoir cette hygiène, c'est une façon d'honorer ceux qui sont autour de vous. Et vous vous dites peut-être, mais du coup, ils nous déshonorent. Et pour revenir à ce que dit l'apôtre, ce que nous lisons, Restons-en à ce qui est écrit et ne jugeons pas, ne prétendons pas savoir ce qui se passe dans le cœur. Bornons-nous, contentons-nous des actions et des actes. Et donc, dans ce que nous lisons, les Corinthiens semblaient comparer Paul aux autres sur des critères de pseudo-spiritualité qui n'étaient pas du tout ancrés dans les Écritures. Et comme les Corinthiens, nous sommes encouragés nous aussi à être prudents, à ne pas cultiver tel ou tel sentiment de supériorité à cause de telle ou telle tradition humaine ou tel trait de notre culture. Et Paul de conclure ce passage avec un, pour moi, quelques versets que Paul a écrits qui sont parmi les plus puissants qu'il ait écrits dans ses épîtres. « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Tu es né en France ou ailleurs? T'as les yeux bleus, marrons, t'as les cheveux blonds ou beaux, longs? Tu connais deux langues maternelles? T'es en bonne santé? Tu grandis dans une famille stable? T'as un CDI depuis 10 ans? Tu sais bien chanter? Tu sais bien dessiner? Tu cogites vite du ciboulot? Tu grossis pas quand tu manges? Toutes ces choses qui t'ont été données sans que tu les poursuives, sans que tu travailles dur pour les obtenir, qu'as-tu qui ne t'ait été donné? On peut aller plus loin encore. Nous, les chrétiens, on apprend à regarder les choses avec ce recul de la foi. Est-ce que tous ceux qui travaillent beaucoup dans le monde gagnent beaucoup d'argent? Non. Allons demander aux employés de Shine qui bossent 75 heures par semaine, 6 jours sur 7. Ils travaillent plus que la plupart d'entre nous ici, tout en gagnant moins. Ils devraient être très riches, ils ne le sont pas. Est-ce que ceux qui font du sport tous les jours et mangent sainement n'attrapent jamais de cancer et ne tombent jamais malades? Non. Ils le sont aussi. Est-ce que ceux qui sont bons reçoivent toujours de la bonté en retour? Est-ce que ceux qui sont justes sont toujours justement traités? Alors nous, chrétiens, nous considérons que lorsque mes efforts sont récompensés par un fruit, lorsque je suis traité justement, lorsqu'on manifeste de la bonté envers moi, lorsque ce que j'entreprends réussit, c'est une grâce aussi, et cela m'est donné. Dans un monde brisé, comme le nôtre, rien n'est sûr de marcher comme il devrait. Jacques a écrit « Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et nous sommes invités à la reconnaissance, pour faire écho à la liturgie de David, pour ce que nous avons, pour ce dont nous pouvons profiter ici et maintenant. Et je vous rappelle ces versets de l'Ecclésiaste qu'on avait étudiés à l'étude biblique. Si Dieu a donné à quelqu'un des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en jouir, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Tu peux profiter de ta maison? C'est un don de Dieu. Tu as du temps avec la femme que tu aimes? C'est un don de Dieu. Tu peux profiter de tes enfants, de tes petits-enfants qui passent te voir? C'est un don de Dieu. Tu as le temps de faire une promenade au soleil aujourd'hui, à la fraîche, quand le soir tombe? C'est un don de Dieu. Profitons des choses de la vie dans la reconnaissance. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors j'espère que vous comprenez bien que nous sommes appelés ainsi à de l'humilité les uns envers les autres, en nous considérant comme des intendants de Dieu, chacun avec sa part à gérer pour le Seigneur. Des intendants de ses biens matériels, des intendants de ses biens spirituels. Soyons trouvés fidèles vis-à-vis de ces choses qui nous sont confiées et ne nous comparons pas les uns aux autres. Ayant dit cela, je ne voudrais pas que vous trouviez ici une espèce d'occasion de se rabaisser sans fin. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des serviteurs du Seigneur, des intendants du roi. Et si je n'ai pas la prétention de tirer orgueil de ce qui m'a été confié, ou de ce que je suis par la grâce de Dieu, cela ne veut pas dire que je ne peux pas être fier et reconnaissant. Celui qui veut être humble ne doit pas chercher à s'abaisser le plus bas possible. Le Seigneur veut nous élever, le Seigneur veut nous faire grandir. Paul dit que Dieu a confié à son Église, donné à son Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, pour que nous parvenions tous à la parfaite stature du Christ, à la mesure d'homme fait. Donc le but c'est qu'on parvienne à la stature de Jésus, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Donc il n'y a pas de vertu à rester en bas. Être humble, c'est bien. Refuser de grandir en maturité à l'image de Jésus, non. Que je sois trouvé fidèle dans les peu de choses, alors je serai établi sur beaucoup, dit les Écritures. Humilité ne signifie pas être le dernier. Le plus humble n'est pas celui qui se prend pour le plus nul. Jésus a dit, moi je suis humble. Pas si vous connaissez beaucoup de monde qui peuvent faire comme Jésus. Toi t'es humble? Ah oui, moi je suis humble. Ouais. Jésus lui dit, moi je suis humble. Et tu es le roi Jésus? Oui, je suis le roi. Tu es assis sur le trône du monde? Absolument. C'est moi qui suis assis sur le trône du monde. Donc tu peux être humble tout en disant que t'es pas le dernier. Pour nous c'est absurde. C'est pas trop comment faire. Mais le chemin chrétien de l'humilité, c'est pas de ramper par terre tout le temps. Faux. L'humilité, c'est être à sa juste place. D'avoir une juste opinion de soi, sous le regard du Seigneur. Être fier d'appartenir au Christ, de servir le Christ, d'être un intendant du Seigneur, n'est pas opposé à l'humilité. Ainsi, Paul ne permet pas qu'on méprise son apostolat. C'est Dieu qui m'a confié cette charge, je ne vous laisserai pas m'en chasser. Vous aussi qui avez reçu une vocation de Christ par votre baptême et peut-être par le don du Saint-Esprit que vous avez reçu, sinon il faut le demander, vous êtes désormais des intendants des biens que le Seigneur vous a confiés. Vous êtes appelés à les gérer comme il lui plaît, comme vous le comprenez. Vous êtes appelés à y grandir, à vous y épanouir, à devenir semblable à lui. Et personne n'a le droit de vous garder abattu, abaissé, culpabilisé en Christ. Car vous lui appartenez, il a offert sa vie pour vous, et cela non pour faire de vous un esclave, mais un intendant, une intendante, un gérant des biens confiés par le Seigneur. En Jean 15:15, pour ceux qui me connaissent, c'est un verset auquel je tiens beaucoup, le Seigneur dit: je ne vous appelle plus esclave ou serviteur, je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que mon Père m'a fait connaître, je vous l'ai fait connaître. Quelle mission! Alors pour conclure, qu'est-ce que Dieu m'a confié à moi? On va dire, oui, toi Timothée c'est facile, t'es pasteur. Oui, mais moi qui ne suis pas pasteur, moi qui n'ai pas ce rôle-là si évident dans l'Église. Peut-être la première chose qu'il faut considérer, c'est Dieu désire que ma vie, la manière dont je conduis ma vie, soit une manière de le servir et de le glorifier. Donc ça commence par le rapport à mon corps et à mon cœur. Est-ce que dans mes pensées, dans ce à quoi je... Comment dire ça? Qu'est-ce que je stocke dans ma tête? Qu'est-ce que je stocke dans mes pensées? Quel type d'image? Quel type de sujet? Est-ce que mon esprit est rempli de TikTok? Est-ce que mon esprit est rempli de pubs? Est-ce que mon esprit est rempli... Avec quoi? Il n'y a que vous, hein, qui pouvait être le gardien de ce à quoi vous vous remplissez l'esprit. Personne d'autre peut le faire. Fermez les yeux. Vous éteignez la télé, vous coupez la radio, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui êtes responsable de ce à quoi notre esprit, c'est comme une éponge. Hein. Moi, des fois, je me détends avec des jeux vidéo, puis si je joue pendant 4 heures, après, pendant une journée, j'ai la musique dans ma tête qui revient du jeu. C'est pareil avec des cantiques, avec autre chose. On est responsable de ce avec quoi on remplit notre esprit, de ce à quoi on s'expose. Mon esprit, mon cœur, j'aime bien dire, mon corps. Qui d'autre est responsable de ce corps? Et j'ose dire de ce corps que vous êtes. C'est pas juste j'ai un corps comme j'ai une voiture. Je suis un corps. Vous êtes votre corps. Ensuite, vos choix, vos paroles, vos actes, vos efforts, le temps que vous prenez à penser et à quoi vous prenez le temps de penser. Vous êtes responsable des intendants de l'argent que vous avez, du temps que vous avez, des biens que vous possédez, des relations que vous possédez, des responsabilités que vous avez, des dons, des talents que vous avez reçus, de votre savoir, de votre expérience. Que faisons-nous de toutes ces choses-là? Quelle forme d'intendance avons-nous? Tiens Seigneur, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, 70 ans. Qu'est-ce que tu m'as confié? De quoi suis-je ton intendant, ton intendante? Et comment est-ce que je pourrais gérer ça d'une manière qui te glorifie, qui reflète de toi, qui te ressemble, qui soit inspiré de ton style avec le royaume, avec la grâce, avec le pardon, avec la générosité, la gratuité? Comment est-ce que je peux être un arbre de vie autour duquel il fait bon vivre? Parce que Seigneur, nous voulons être trouvés fidèles quand tu reviendras. Amen. Je vous invite à prier. C'est compliqué, Seigneur, de considérer que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, nous devrions le vivre comme des intendants. On a envie qu'il y ait une part qui te revienne à toi et puis une part qui soit que à nous où on fait ce qu'on veut. On aime bien avoir les choses plus simples comme ça parce que, en un sens, nous penser tes intendants pour toute chose, ça paraît trop exigeant et trop vaste. Et en même temps, Seigneur, on comprend bien que quand toute chose doit te refléter, alors toute chose a du sens. Depuis le moment où je range ma chambre pour repousser le chaos, comme toi tu as repoussé le chaos quand tu as créé le monde, jusqu'au moment où je prends soin des objets que j'ai, que ce soit de ma voiture, que ce soit de ma casserole que je nettoie après la vaisselle. Dans toute chose maintenant, Seigneur, je peux voir, je peux discerner comment est-ce que je prends soin de ce qui t'appartient, de ce que tu m'as donné. Seigneur, je te demande que tu nous inspires toutes et tous pour redécouvrir comment est-ce qu'on peut vivre, vivre avec, être dans ce corps, être avec ce cœur que nous avons, regarder toutes nos relations et comment dans toutes ces choses-là, Seigneur, nous pouvons être des intendants, des intendantes, responsables des biens que tu nous confies. Est-ce que nous voulons être des arbres de vie à l'ombre desquels il fait bon d'être. Que ceux qui nous entourent, nos proches, nos amis ou les gens qu'on croise de passage, Seigneur, trouveront un rafraîchissement, un temps de repos, de relèvement auprès de nous, parce que toi, tu nous guides et tu nous inspires. Merci d'avoir fait de nous tes intendants et tes gérants, tes serviteurs et non pas tes esclaves. Même plus encore, Seigneur, nous sommes tes enfants. Grâce te soit rendue. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et on a une église remplie de mamans de chair. On a aussi une église remplie de mamans de cœur, de personnes qui, même si elles n'ont pas eu d'enfants, elles ont eu à cœur de s'occuper des enfants de l'Église. Et c'est pour ça que je vais aller chercher un petit cadeau pour vous toutes, mesdames.